20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. L'histoire pourrait commencer en août 44, le 14 à 10h55 précisément, par une gigantesque déflagration issue d'un B-24 Liberator de la 8e Air Force américaine tentant d'anéantir les installations ferroviaires d'Angoulême et par là même les troupes allemandes. Mais elle ne débute que voici quelques mois sur une fouille préhistorique où les archéologues observent une partie de leurs vestiges vieux de 12 000 ans, curieusement organisé autour d'un vaste cratère noirci. Au-delà de cette belle diachronie, les abords de la gare d'Angoulême s'avèrent aujourd'hui l'exceptionnel témoin d'un moment clé de notre histoire, celui du crépuscule de la préhistoire. Pour percevoir cette période charnière, comprendre ces sociétés en pleine mutation face à un réchauffement climatique sans précédent, c'est sur le terrain que j'ai rencontré Miguel Billard, préhistorien, incontournable technologue de la pierre taillée et archéologue responsable de ce chantier de l'INRAP. Miguel Billard, vous fouillez en centre-ville ?
Eh oui, première fois de ma vie, je suis responsable de la fouille du site d'Angoulême et je suis en plein centre-ville, juste à côté de la gare.
Et ce que vous trouvez, c'est du très 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 vieux ?
C'est pas super vieux, on va avoir des informations dans la région bien plus ancienne. En revanche ici, c'est une découverte, on va dire pas inédite, mais pas loin, parce qu'on a pour la première fois des informations sur la fin du Paléolithique.
Une période qu'on connaît très mal.
Alors dans ces aires géographiques, justement, en Charente, c'est relativement rare. On a eu quelques informations un peu anciennes, quelques collègues travaillent sur cette période, mais pour la première fois, en tout cas en zone ouverte, c'est la première fois qu'on a la chance d'avoir un site de plein air sur une emprise aussi étendue.
Alors on est devant une sorte de zone, on va dire, sableuse. Quelquefois c'est noir, quelquefois c'est très jaune. Visiblement, ça s'enfonce très profond dans le sol. On est sur quoi ?
Alors ici, on est évidemment, quand on voit la coupe et l'ouverture de la parcelle à fouiller, on voit pas grand-chose à ce niveau-là. Par contre, on voit en effet des différentes couleurs concernant les sédiments et on se trouve au milieu d'un paléochenal, donc sûrement un ancien méandre de la Charente qui a été comblé pendant cette période de transition entre le climat froid et le climat tempéré. Et donc on va avoir un comblement de ce chenal, de cette rivière, durant ces différentes périodes climatiques. Plus il va faire chaud, plus on va avoir les rivières qui vont déborder, gonfler et venir combler les chenaux. Plus il va faire froid, moins on va avoir de sédiments qui va se déposer au centre de ces chenaux. Et c'est dans ces différentes couches qu'on peut voir les occupations préhistoriques de l'extrême fin du paléolithique, limite transition paléolithique-mésolithique. On se situe environ, pour la période la plus ancienne, vers moins 11 000 ans, pour une culture qu'on appelle l'Asilien récent. Et pour la période la plus récente, on va dire qu'on va être dans une période climatique qu'on appelle le pré-boréal, qui est plus ou moins datée vers 8000, 9000 before présent.
Alors, on va s'imaginer un peu le paysage. On s'imagine la Charente coulant pas si loin que ça. On s'imagine donc des berges, des îlots, des bras de rivière qui s'anastomosent.
Exactement. Alors selon, encore une fois, ces différences climatiques, on va avoir des activités hydrauliques différentes. Pour la période de l'Asilien, celle qui est le mieux représentée ici à Angoulême, on est dans une période de réchauffement, donc peut-être que la rivière était moins active qu'on peut l'avoir aujourd'hui. On est au centre de cette grande plaine alluviale, avec à l'est le plateau d'Angoulême, très riche en matières premières, et aussi, à l'opposé, les ressources à la fois en gibier aussi, et aussi en matières premières, parce qu'on sait très bien que la Charente prend sa source jusque dans le Massif central et on peut avoir des roches qui proviennent de très loin et qui étaient sûrement privilégiées par ces préhistoriques. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les industries, dans les silex taillés qu'on découvre sur ce site.
Quel est l'intérêt de s'installer ici ? Parce que c'est assez récurrent, les hommes préhistoriques aiment bien les bords de berge en général.
Alors en effet, l'archéologie préventive l'a prouvé, que la majorité des occupations préhistoriques de ces périodes se situent en bord de berge. Bon, il y a plusieurs informations. Il y a déjà les ressources naturelles. Les bords de berge sont extrêmement riches en ressources naturelles, en silex, mais aussi éventuellement en flore. On peut avoir des végétaux qu'on va pouvoir utiliser dans la vie quotidienne de ces gens-là. Et les zones giboyeuses, l'eau. Donc tout ça, ce sont des éléments assez rares pendant ces périodes de nomadisme qui vont être privilégiés par ces préhistoriques.
Alors moi, j'ai bien sûr en mémoire Pincevent, grand site paléolithique, un autre, Étiole aussi, en bord de rivière, mais il y en a bien d'autres. Et il doit y en avoir même pour les Iliens ou ces périodes sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui.
Exactement. Alors l'archéologie préventive a permis d'aller explorer ces zones-là et de découvrir en grande majorité des occupations préhistoriques localisées sur ces lieux-là, sûrement grâce à ces ressources naturelles qui devaient être extrêmement riches, comme elles le sont encore aujourd'hui, à ces époques-là.
Donc les hommes préhistoriques s'installent sur des sortes de petites buttes autour de l'eau, quoi.
Tout dépend des périodes climatiques dans lesquelles vous vous trouvez. Si vous êtes dans une période froide, bien entendu qu'on va privilégier en tout cas des zones qui sont terrestres et accessibles à pied. Et sachant que ces zones-là, en période de réchauffement, peuvent être, elles, immergées par le débordement des eaux et parfois venir gommer les indices préhistoriques qu'on peut avoir sur ces sites. Mais en tout cas, les gens du Mésolithique, comme ici à Angoulême, ont privilégié, bien entendu, les petites buttes accessibles. Ces endroits-là, propices, vont livrer pas mal de matières premières que les préhistoriques vont pouvoir exploiter pour produire leurs outils ou leurs armes de chasse en silex.
Les industries les plus anciennes que vous ayez appartiennent à une culture qui est assez connue. L'Asilien, c'est quoi l'Asilien ?
Alors l'Asilien, c'est une période de transition, une période charnière dans l'histoire de l'homme. Pourquoi ? Parce que on est dans une période de transition entre le climat froid et le climat tempéré. Donc bien entendu que ces changements, à la fois on a des changements concernant la faune, concernant la flore, et évidemment dans le comportement humain aussi. On ne va pas fabriquer les mêmes outils, on ne va pas chasser les mêmes animaux, et on ne va pas exploiter non plus les mêmes végétaux. Donc tout ça sur une période assez courte, qui est une période qu'on appelle le tardiglaciaire, vers moins 15 000, moins 10 000 à peu près, on va avoir des changements assez innovant sur des périodes très très courtes. Et ce qu'on cherche aujourd'hui, l'objectif de cette fouille, c'est de répondre à ces problématiques. En combien de temps on va voir ces changements ? Concernant la taille du silex, par exemple, on est dans des grandes tendances technologiques avec des petites différences qui vont permettre de caractériser ou d'identifier ces cultures qui parfois sont différentes de seulement 200 ans. Seule l'industrie lithique, c'est-à-dire la façon dont on transforme ces silex en outils ou en armatures, vont nous livrer des informations sur les datations. Pourquoi ? Parce que à ces époques-là, même si on fait des datations au carbone 14, on va être sur ce qu'on appelle des phénomènes de plateau et on ne va pas pouvoir préciser la place exacte de cette industrie dans la chronologie. Seul le paléo-environnement, c'est-à-dire l'étude des sédiments, va pouvoir nous renseigner et nous donner de manière fiable la place de ces cultures et de placer chronologiquement dans la coupe stratigraphique, l'emplacement de ses occupations.
L'Asilien, c'est bien sûr la grande grotte du Mas d'Asil. C'est aussi le rocher de l'impératrice dont on a parlé il n'y a pas si longtemps dans Carmen 14. C'est à peu près ça, ces cultures ?
Exactement, voilà. Alors bon, on connaît bien ces sites-là qui ont livré énormément d'informations, mais il y a aussi beaucoup de sites en Normandie, comme le site d'Alizay ou le site de Calville, qui ont fait l'objet de fouilles et qui ont livré beaucoup de nouveautés, en tout cas, sur ces périodes-là. C'est une période de la préhistoire qu'on connaît pas beaucoup, on entame, on va dire, les recherches sur ces périodes-là. Pourquoi ? Parce que ça a été mis en évidence il y a une quarantaine d'années, vraiment de manière un peu plus spécifique. Avant, on appelait ça l'Asilien en général ou l'épipaléolithique. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est bien plus complexe et que pendant cette période extrêmement courte du paléolithique, il y a énormément de changements. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant aujourd'hui sur la fouille du site d'Angoulême.
On est toujours dans le paléolithique pour vous ? Est-ce que on sent une rupture, puisque semble-t-il, vous me parliez de rupture, de changement culturel.
Alors, la rupture, je la sens pas beaucoup, à vrai dire, à part peut-être dans l'exploitation des ressources, dans la faune et la flore, lorsqu'on a la chance d'avoir des sites bien conservés qui nous permettent d'avoir des matériaux organiques. Là, ici, on sent qu'il y a une continuité technologique des tiques, des méthodes de taille qui, elles, sont dignes et qui caractérisent le paléolithique, la production de grandes lames, par exemple. Le soin apporté aux préparations, aux détachements, la façon, le style de créer les outils en silex. On est encore dans cette culture-là, dans la culture du débitage sophistiqué. Mais on sent tout doucement que dans la production de l'outillage de chasse, ils vont diminuer. On va passer dans un microlithisme et les armatures deviennent de plus en plus petites jusqu'à l'arrivée du climat tempéré, par exemple de l'Holocène, où là, on va avoir des outils de chasse microscopiques.
Vous me dites tempéré, vous avez de la faune et donc forcément, on appelle ça de la faune chaude, on n'a plus la grande faune froide.
Non, alors exactement. On a quelques informations, surtout avec... Bon, moi, personnellement, je suis un préhistorien du Nord, donc j'ai comme référence les informations qui ont été fouillées au nord de la Loire. À partir de ces époques-là, donc on rentre dans un climat plus ou moins tempéré, donc le renne va disparaître pour laisser la place au chevreuil, pour laisser la place au sanglier, même si le cheval est encore très dominant. Ici, sur le site d'Angoulême, on est au début de la fouille et on a quand même la chance d'avoir quelques informations concernant la faune. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas pu déterminer l'espèce, mais prochainement, je suis sûr qu'on va pouvoir vous donner l'information plus précise concernant l'exploitation de cette faune par les Asiliens.
On aurait même du lion à cette époque.
Alors exactement, sur le site du Closot, fouillé par Pierre Baudu et déterminé par Céline Bémilly, sur l'Asilien plus ancien, hein, c'est-à-dire qu'on est un peu plus vieux, là on est à peu près vers moins 12004, on a la présence du lion et non pas des parties, on va dire, comme les griffes qui auraient pu être utilisées comme parure. Non, il y a des quartiers entiers de lion qui prouvent qu'à cette époque-là, on a la présence du lion à Rueil-Malmaison.
En tout cas, là, on est à peu près à 12 000 ans avant Jésus-Christ, avant notre ère. Et le caractère exceptionnel du site, c'est que un peu plus tard, une autre implantation humaine s'installe.
Tout à fait. Alors ça, c'est relativement rare et à vrai dire, on ne s'y attendait pas. Plus on descend dans le chenal, plus les comblements du chenal sont importants. Et dans ces comblements, on a découvert un paléosol qui mesure environ 15 cm, qui est extrêmement organique, c'est-à-dire que ça se voit. On a une espèce de gâteau Vandame devant nous avec des différentes couleurs. Et parmi ces couleurs, on a ce paléochenal qui est tout noir. Et à l'intérieur, on a une industrie, c'est-à-dire des silex taillés, d'une facture bien plus élégante, et ça c'est personnel, bien plus élégante, bien plus sophistiquée, avec des types d'armatures caractéristiques d'une période qu'on appelle dans le sud de la France le Laborien.
Ce que l'on voit là, cette grosse couche noire, donc ce serait cette culture laborienne, culture dont je n'avais jamais entendu parler.
Exactement. Donc là, je vous dis, on est juste vraiment à la transition, hein, à la porte de la grande culture mésolithique. Et ces laboriens sont venus à Angoulême, évidemment, pour profiter des ressources naturelles et sûrement du chenal qui devait être en activité, donc de la rivière qui devait être en activité, parce que l'implantation des silex, les concentrations de silex se trouvent juste à proximité de la rivière. Donc pendant même la période de réchauffement de l'Holocène, cette rivière est venue nettoyer et lécher mes occupations laboriennes et on n'a pas détruit, mais sont venus déplacer malheureusement certains de ces silex qui ont été posés là. Et là, il y a une véritable occupation du bord de la rivière à cette époque-là.
Donc on exploiterait l'eau ?
Obligatoirement, on va exploiter l'eau, mais c'est surtout un lieu de passage pour les gibiers, encore une fois. Et dans les alluvions de cette rivière, elle devait être extrêmement riche en matières premières. Et on a cette information parce que les silex qu'on retrouve possèdent une croûte caractéristique qui a été créée par le mouvement de ces silex à l'intérieur de la rivière. Donc ça devient des galets, ils ont exploité des galets. Donc ces galets n'ont pas été trouvés en position primaire, c'est-à-dire sur le plateau d'Angoulême, ils n'ont pas été trouvés dans la carrière, non, ils ont été trouvés et ramassés dans cette rivière. Donc deux objectifs, sûrement exploitation de l'eau, zone giboyeuse, et aussi exploitation des ressources lithologiques de cet endroit qui, en plus, devait être à l'époque particulièrement esthétique.
Alors cette culture laborienne, est-ce que ce serait une culture régionale ou on pourrait peut-être éventuellement en voir un peu partout à travers la France ?
Alors, pas qu'à travers la France, hein, vers la fin du paléolithique, d'un point de vue européen, parce qu'on a eu la chance d'aller voir des silex de cette période-là à travers l'Europe, surtout l'Angleterre, l'Allemagne et dernièrement la Pologne, on s'aperçoit qu'il y a une véritable culture technologique, une manière, une façon de tailler les silex qui est récurrente dans toutes ces régions. Seule va changer la forme de ces armatures. Est-ce que c'est régional ? Est-ce que c'est national, voire européen ? Pour le moment, on ne peut pas le dire. Mais un des objectifs, c'est de savoir d'où viennent les grandes influences ? Est-ce qu'on a une notion, grâce à ces formes de pointes de flèche, du territoire de ces laboriens en France ? On, je vous dis, on a beaucoup d'informations dans le nord, beaucoup d'informations dans le sud, et Angoulême restait, enfin le centre de la France en général, restait, les informations étaient extrêmement ténues. Donc grâce à cette fouille, en plein centre-ville, on va peut-être pouvoir répondre à ces problématiques importantes qui est qui vient d'où et qui a fait quoi, en fin de compte.
Miguel Biard, vous me disiez que l'Asilien, donc il y a 12 000 ans avant notre ère, était une période tempérée, Un peu après, donc, le laborien, cette culture laborienne, serait durant le Dryas récent. Et à ce moment-là, il y aurait un coup de froid.
Voilà, c'est ça. C'est un des derniers coups de froid du Paléolithique, où les hommes se remettent à tailler, bon là je vous parle en tant que technologue, à tailler des lames de bonne qualité. Alors c'est avec un œil de préhistorien et non pas de préhistorique. Mais en tout cas, c'est pendant cette petite période, qui est très courte, environ 200 ans, où les hommes se remettent à fabriquer des lames de silex, je vais pas dire d'exception, là c'est parce que j'aime beaucoup cette science qu'est la technologie, mais en tout cas ils savent gérer, ils savent produire, il y a beaucoup d'économies dans leur façon de tailler, dans l'objectif de produire le maximum de produits et de supports pour les transformer à la fois en outillage, donc domestique, et aussi en armature, donc en pointe de flèche et pointe de projectile.
Est-ce que l'on peut dire que les industries sont plus élégantes durant les périodes froides que durant les périodes chaudes ?
Alors là, c'est strictement personnel, mais oui, c'est ce qu'on rencontre personnellement au pléniglaciaire, pendant la période solutréenne, par exemple, c'est là où on a, pour moi en tout cas, les plus beaux objets. Quand je dis plus beaux objets, c'est pas la silhouette de l'objet, c'est surtout la façon de le fabriquer. Et là, encore une fois, pendant cette période du Dryas récent, sachant que juste avant, les Asiliens vont produire de l'outillage à partir d'éclats allongés, voire laminaires, en les percutant avec un percuteur dur. Juste cette époque, après, le laborien, on va réutiliser des percuteurs qui permettent d'avoir des lames et des éclats de silex beaucoup plus allongés, beaucoup plus fins. Encore une fois, c'est une information du préhistorien et non pas du préhistorique. Évidemment que ça a suffi et ça a répondu aux besoins quotidiens de ces gens-là. Donc là, je vous parle avec l'œil du préhistorien et non pas du préhistorique. Mais en tout cas, à étudier, je préfère étudier des industries élégantes que des industries un petit peu, je vais pas dire ingrates parce que je vais me faire des ennemis, mais on va dire peu élaborées pour le préhistorien, encore une fois.
Est-ce que l'on ne serait pas devant un vrai bel exemple de résilience communautaire sociétale, à savoir bien sûr, d'un seul coup un coup de froid, les hommes sont obligés de s'adapter, s'adapter au climat, s'adapter aussi à des nouvelles ressources, à un grand changement en tout cas.
Exactement, on est obligé de s'adapter, parce que là c'est de la survie à cette époque-là, donc chaque changement climatique apportait son lot de nouveautés, à la fois dans la faune, dans la flore, mais aussi peut-être dans les modèles d'occupation, et donc les préhistoriques ont dû s'adapter à chaque fois à ces changements climatiques.
On serait sur des éléments très caractéristiques, donc très culturels, qui seraient de toutes petites pointes.
En effet, on a aussi sur ce site, donc on a à la fois le passage entre le climat froid et le climat tempéré, mais on a aussi une petite période du mésolithique, donc le premier mésolithique vers moins 8000 ans. Et là, on a, grâce à cette découverte, l'évolution en tout cas des styles de débitage et aussi des types d'armatures et des pointes de flèches qui sont souvent les fossiles directeurs pour les préhistoriens. Donc on a sur ce site-là à la fois toute l'évolution technique de la fin du paléolithique, c'est-à-dire vers moins 12 000 jusqu'à moins 8 000 ans. Et c'est pour cet endroit de la France un des sites qui livre ces trois informations d'un coup. Et donc on va pouvoir bien documenter pour créer un véritable socle, ou en tout cas des informations fiables, pour ensuite aller comparer avec les contemporains qui se trouvent à la fois dans le nord et aussi dans le sud de la France. Et on va pouvoir reconcevoir, en tout cas, ou rediscuter de la place de cette époque du tardiglaciaire, de l'extrême fin du paléolithique, sa place en France.
Alors ces pointes, en général, ce sont des petites lamelles, elles ont ce que l'on appelle un dos retouché, un bord abattu dans le jargon des archéologues. Elles sont courbes, elles sont droites, elles portent toutes des noms de lieux très particuliers, les pointes de Mallory, les pointes de Blanchère.
Exactement. On a associé souvent, pour pouvoir caractériser et les reconnaître entre chercheurs, on a donné des noms, souvent le site éponyme, à ces armatures. Dernièrement, à ces époques justement de l'extrême fin du paléolithique, on s'aperçoit que si le style de débitage est identique, il y a une production d'armatures complètement différente. Sur le site d'Alizay, par exemple, dans l'Eure, fouillé par Cyril Marcigny et moi-même, on va avoir un type d'armature inédit, qui sont des pointes des Blanchères avec des troncatures obliques, des espèces de pointes perçantes. Si on va sur le site de Calville, fouillé par Stéphane Ingan et moi-même, on va avoir exactement les mêmes ressemblances technologiques. Ce sont des sites contemporains, mais les armatures sont différentes. On va avoir des pointes de Mallory et des troncatures obliques concaves. Donc là, on cherche, en fin de compte, les caractères des armatures du site du centre de la France. Et il est possible qu'on tombe en effet sur des types inédits. Et c'est un peu le cas pour le moment, justement.
Ça marchait comment, ces pointes ? Vous dites armature, mais on pourrait dire pointe de flèche ?
Alors voilà, je préfère dire pointe de flèche. Ce sont des armes de chasse qui sont utilisées, bien entendu, pour les activités cynégétiques. Donc après, je ne sais pas comment elles sont emmanchées, j'ai pas d'informations pour le moment, parce que je n'ai pas encore l'étude tracéologique qui me permette de dire s'il y a des traces d'impact qui permettent de prouver, justement, que ces pièces, ces armatures soient utilisées pour la chasse. Il va falloir attendre un petit moment pour que je puisse vous donner l'information. Mais en tout cas, habituellement, la plupart du temps, ces armatures, ces pointes de flèche, souvent extrêmement pointues, sont utilisées pour la chasse et sont des pièces axiales sur les hampes de flèches. Et on peut aussi retrouver, selon le type d'armature, des pièces qui, elles, vont être latérales et qui vont faciliter, en fin de compte, la pénétration dans l'animal.
C'est un travail de chercheur extrêmement spécialisé, mais ça a intéressé la police scientifique.
Alors oui, tout à fait. Dernièrement, on a effectué une étude expérimentale pour comprendre l'impact de certaines de ces armatures, en particulier les pointes des blanchères et les troncatures, les bitroncatures. Et on a tiré ces armatures, ces flèches, dans du gel balistique afin de comprendre justement l'étalement des ondes lorsqu'on prend une flèche dans un corps. Et on s'aperçoit en fin de compte que à la fois l'armature est très dilacérante, en revanche, il y a un élément que nous on n'a pas en archéologie, que ce soit sur la faune ou sur les armatures, ça va être l'onde de choc qu'offre ce type d'armature lorsqu'elle est lancée soit à l'arc ou soit au propulseur, qui est extrêmement, elle, dilacérante et qui peut éventuellement stopper un animal dans la course, quoi. Donc ça, c'est un nouvel axe de recherche qui est aujourd'hui exploité pour comprendre justement le côté impacteur, en fin de compte, de ces armatures.
Alors, plus loin, sous une bâche, il y a bien sûr une équipe d'archéologues qui fouille, de préhistoriens, par force. C'est un travail extrêmement minutieux. Les pièces sont absolument minuscules. Vous allez petit à petit voir des choses se former, des concentrations, des zones plus lâches, peut-être quelques foyers.
On le suppose. Aujourd'hui, on a attaqué, comme on dit dans notre jargon, la fouille manuelle. Sachant que, comme je l'expliquais, nous sommes dans des productions de toutes petites pièces, donc on va être obligé de tamiser la totalité de ces deux occupations préhistoriques. Sachant que pendant la fouille, éventuellement, on attend peut-être des zones préférentielles. Éventuellement, on va découvrir des foyers. On peut découvrir des structurations de l'espace un peu étonnantes. On va avoir peut-être des zones d'atelier ou des postes de taille. On peut aussi avoir des zones préférentielles domestiques, je sais pas, de tannage de peau ou une fonction particulière. Au jour d'aujourd'hui, je peux pas vous le dire parce qu'on n'a pas terminé la fouille, mais en tout cas, ça commence bien parce que les premiers mètres carrés déjà fouillés ont permis de mettre en évidence, je vais pas dire un foyer parce qu'on n'en est pas sûr, mais en tout cas une structure de combustion qui prouve qu'il y a eu un feu. Alors, est-ce qu'il est naturel ou pas? Je peux pas vous le dire au jour d'aujourd'hui parce que les analyses sont pas terminées, mais en tout cas, ce genre d'occupation à cet endroit-là est vraiment propice aux aménagements. C'est une des problématiques importantes d'avoir une idée sur les modèles d'occupation de ces gens-là sur un territoire comme celui d'Angoulême.
Alors je le disais, trouver deux cultures préhistoriques superposées sur un chenal de berge, c'est absolument exceptionnel. En général, c'est en grotte que l'on retrouve ce genre de choses.
Alors exactement, dans la région, les informations, et encore, hein, je vous dis, moi je suis un préhistorien du Nord, donc je n'ai pas toutes les informations encore concernant cette région qui est la Charente. En revanche, c'est la première fois en Charente où on a la chance d'avoir ces trois occupations, à la fois asilienne, laborienne et aussi mésolithique ancien, stratifiés au même endroit. Donc ça, c'est une première, en effet, d'où l'intérêt de le fouiller. La prescription du service régional a permis justement d'aller documenter et renseigner cette occupation de cette période charnière qui est l'extrême fin du paléolithique.
Vous avez aussi des tufs, vous avez aussi des végétaux.
Tout à fait. Alors dans le fond de ce chenal, on a une espèce de petit barrage de tuf qui est formé par le dépôt des carbonates pendant une période très peu active où il y a très peu d'eau en fin de compte qui va s'écouler du fond du chenal. Et dans ces tufs, on a eu la chance de découvrir des empreintes de végétaux. Donc là, on va pouvoir, grâce aux paléobotanistes, avoir des informations sur la flore de l'époque et peut-être enrichir le corpus de connaissances sur le type de végétation utilisée par ces préhistoriques.
Quelle est la place de la technologie lithique en France? C'est une chose très importante quand on est préhistorien?
Alors tout à fait, parce que souvent on n'a pas de possibilité de faire des datations. Hein, en préhistoire, c'est la culture matérielle qui va nous permettre de placer telle ou telle industrie dans une case. Donc la technologie aujourd'hui va préciser ces informations. Alors par exemple, on sait qu'au paléolithique supérieur, on va privilégier les lames. Donc on sait que quand on trouve une grande lame, par exemple, on peut la placer dans le paléolithique ou peut-être un petit peu dans le mésolithique. Mais la technologie va nous renseigner sur des modalités ou sur des subtilités. Par exemple, la préparation des tachements, le talon, l'endroit où on va taper. Les préhistoriques n'ont pas utilisé toujours les mêmes procédés techniques pour pouvoir fabriquer leurs outils. Et donc, la détection ou la stigmatologie, la façon dont on a taillé et avec quoi, va nous renseigner et nous rendre plus précis le diagnostic. Et surtout dans le cadre de l'archéologie préventive, où lorsqu'on fait des diagnostics, on va devoir placer ça assez rapidement. Donc la technologie a vraiment sa place aujourd'hui pour pouvoir à la fois replacer les industries dans la chronologie, mais aussi de comprendre les subtilités des productions de l'outillage de ces hommes préhistoriques.
C'est-à-dire que entre l'asilien qui est en dessous et le laborien qui est au-dessus sur votre chantier, on ne taille pas forcément avec les mêmes outils et de la même manière.
Exactement. Les asiliens, eux, vont produire leur lame de silex avec un percuteur de pierre qui laisse des stigmates, donc des traces sur le silex bien caractéristiques. Donc on sait que l'utilisation de cette pierre dure, qu'on appelle le percuteur dur dans notre jargon, ne va pas permettre l'extraction de grandes lames fines et élégantes. Contrairement aux laboriens, donc du niveau supérieur, où eux vont privilégier un matériau plus tendre, plus plastique, qui va permettre l'obtention de lames bien plus fines et bien plus longues. Donc ça, ce sont des éléments en technologie qui vont nous permettre aussi de le replacer dans la chronologie et surtout de faire des différences. Et l'objectif maintenant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a de telles différences technologiques.
Si vous dites ça, c'est que vous taillez.
Pour pouvoir avoir de bonnes informations en technologie, la première chose, c'est de voir énormément de matériel archéologique. Et ça, j'ai la chance, moi, travaillant à l'INRAP, de voir énormément de cultures différentes et des centaines de milliers de silex taillés. Et aussi de passer par l'expérimentation avec plusieurs collègues. On essaye de reproduire, donc on va... Quand je dis reproduire, ça paraît prétentieux, mais on essaye de faire des facsimilés, sachant qu'on sera de toute façon toujours à côté. Mais on va essayer de reproduire les éléments qu'on va trouver sur le site pour mieux comprendre la façon dont c'est fait, avec quoi c'est fait, quels sont les gestes qu'on va avoir, quels sont les modes de préhension, par exemple, et d'avoir une idée sur la complexité de ces productions. On peut même aller plus loin, par exemple, pour le béloisien, donc production de très grandes lames de silex. On sait aujourd'hui, avec mon collègue Boris Valentin, que l'aspect physique du tailleur est important. On ne peut pas tailler à la suite trois blocs de silex de 30 kg. Non, donc maintenant, ce sont d'autres éléments qui rentrent en compte dans ces études technologiques. C'est l'aspect physique du mec et aussi l'aspect mental. C'est-à-dire que si on n'est pas bien dans ses baskets ou ses mocassins, on ne va pas pouvoir produire une feuille de laurier, par exemple. Donc, il y a tout un aspect qui paraît un peu empirique, hein, qui vient s'ajouter aux études technologiques aujourd'hui.
L'école française de technologie lithique est absolument leader, pionnière, va-t-on dire. Vous travaillez côté aussi américain ?
Alors oui, je travaille avec les Américains, mais pas du tout de façon académique. Je travaille beaucoup avec les Amérindiens qui, eux, utilisent encore le matériel lithique dans leur vie quotidienne. Non pas par utilisation domestique, mais surtout dans leur rite. Fréquemment, je suis amené à reproduire des pointes de flèches pour offrir à mes amis Amérindiens pour qu'elles soient utilisées dans leurs rituels et dans leurs cérémonies.
Qu'est-ce qu'ils en font et comment perçoivent-ils le matériel ? Sûrement pas comme un préhistorien.
Du tout, du tout. Alors évidemment, c'est plein de légendes, c'est plein de superstitions, mais personnellement, je ne me pose pas de questions et c'est bien le seul moment de ma vie où je ne me pose pas de questions, où je ne suis pas archéologue. Je réponds tout simplement à leurs demandes, donc parfois je comprends rien du tout. Ils me demandent parfois, « Miguel, est-ce que tu peux me faire une pointe de flèche mâle ou une pointe de flèche femelle ?» Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je réponds à leurs demandes et ça reste leur culture et je ne cherche pas non plus à en savoir plus. J'essaye juste de leur faire plaisir, en tout cas, même si certains Amérindiens, surtout du sud-ouest, hein, je travaille avec les Apaches et les Navajos, ont encore cette connaissance, aujourd'hui ils se permettent, avec ce savoir-faire français, de me demander des spécificités, des couleurs ou des formes particulières. Chose qu'aujourd'hui, beaucoup d'Amérindiens ne sont plus capables de faire. Donc ils vont privilégier, bien entendu, le matériel archéologique, et il m'arrive parfois d'utiliser du matériel archéologique, donc des pointes de flèche archéologiques, et de les réappointer. Mais là, c'est de l'archéologie vivante, c'est-à-dire que les Amérindiens, les natifs, vont l'utiliser aujourd'hui. Ils ont tous une pointe de flèche tatouée, ils ont tous une pointe de flèche autour du cou. Où là, l'archéologie devient vivante.
Miguel Biard, vous êtes venu comment à la préhistoire ?
Moi, je fais partie des gens du voyage, mais sur l'eau. Je suis de tradition batelière, et à l'âge de 4 ans, mes parents ont été exploiter les alluvions de la Seine sur le site de Pincement. Et donc, à l'âge de 4 ans, j'ai eu la chance de voir les premiers archéologues et de voir ma première lame de silex. Et j'ai eu un déclic à cette époque-là. À l'âge de 4 ans, je voulais devenir préhistorien car j'ai été fasciné par les fouilles et par ces fameuses lames de silex.
Pincement, c'était un professeur au Collège de France qui fouillait ?
Oui, c'était avec André Leroy-Gourand, donc j'ai très peu connu, et j'ai eu la chance de le rencontrer lors de la fouille donc du site de Pincement en 84-85, et ça reste pour moi un moment d'exception, et Pincement reste en tout cas à mon cœur un endroit particulier.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Valérie Lavalard et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, nous évoquerons l'histoire et l'archéologie d'un continent, l'Afrique.